émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle émission, donc dernière de vie sur Principe Actif. Salut les gars, ravi de vous retrouver. Salut Fred.
Salut Kevin.
Salut Jérôme.
Salut Kevin.
Donc au sujet du jour, au sommaire, nous allons parler donc des écoquartiers, donc thème d'actualité, thème un petit peu à la mode, qui fait un petit peu jaser chez certains, mais qui habite plutôt très fortement une idée très forte chez d'autres. L'écoquartier, donc le thème du jour, mais avant tout, faisons un petit tour de l'actualité. Nous allons parler de Doha, mais avant tout de l'EPR de Flamand Vide. Fred, je crois que tu as quelque chose à dire.
Oh, quelque chose à dire. C'est juste que je voulais revenir. Depuis la dernière émission, on a eu la facture. Enfin, ce n'est pas la facture définitive. On est en cours de travaux. Donc ça y est, on est arrivé. Ça a repris 2 milliards. On est arrivé à 8,5 milliards pour l'EPR de Flamand Vide. Ça fait que l'énergie nucléaire, le prix augmente de jour en jour. Ouais. Pour passer devant l'éolien et je sais pas, là, on s'approche de l'hiver. Alors je pense qu'on peut penser à la fameuse précarité énergétique qui va frapper de plein fouet de plus en plus de foyers. Et je pense qu'il serait bien un jour d'orienter tout cet argent vers autre chose que du nucléaire.
Alors ce qui est marrant, c'est que ça nous permet de rebondir sur notre précédente émission avec Negawatt, qui nous avait déjà parlé de ce phénomène de l'accroissement perpétuel finalement des coûts de production, ces énergies-là, entre la théorie et la pratique, la réalisation. Et là, c'est encore un cas avéré de détournement finalement.
D'une augmentation de prix, alors non seulement pour un projet qu'on peut discuter, mais après avec une finition qui semble poser problème, avec déjà des ciments qui ne sont pas aux normes et des choses comme ça.
Exactement.
La question de Flamanville, je pense, rebondira encore quelques fois dans l'actualité.
Ok, donc le coût en tout cas de l'énergie est bien remis en question. Autre sujet, Doha sûrement.
Oui, la conférence de Doha qui s'est terminée. Alors, sur le réchauffement climatique, depuis la dernière émission, on a eu le rapport de la Banque mondiale qui donnait des prévisions qui étaient déjà bien au-dessus de celles prévues. À l'entrée de Doha, le GIEC a aussi fait un bilan pour dire qu'on était au maximum des prévisions. Et tout le monde est d'accord pour le constat, personne n'est d'accord pour les solutions. Doha se termine par un non-accord, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de signé au forceps, mais qui implique très peu de pays.
Mais en fait, qu'est-ce qui a été signé alors?
C'est assez technique. C'est par rapport au problème de l'air chaud. En gros, les pays gros producteurs de carbone ne veulent rien signer. Donc, eux, ils n'ont rien signé. Les pays émergents ne veulent rien signer, ne veulent pas rentrer dans le dispositif à partir du moment que les pays les plus producteurs ne rentrent pas dedans.
Et, ce qui paraît logique.
Oui, ce qui paraît évident. Et derrière ça, il y a les pays européens qui sont arrivés au sommet de Doha avec une volonté de faire avancer les choses et qui sont repartis de Doha avec le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais je crois que cette fois-ci, il est très très vide le verre. Alors l'avenir, c'est la conférence de 2015.
Va pas être trop tard 2015?
Elle est censée avoir lieu à Paris et c'est soi-disant cette conférence-là, on ne pourra pas en ressortir sans un nouveau... accord qui va impliquer chacun, mais je ne crois pas que ça soit très prometteur pour l'instant.
D'accord. Jérôme, tu as peut-être quelque chose à dire sur Doha, sur ton point de vue personnel, ce que tu en penses, tout simplement.
Enfin, au-delà de ce que j'en pense, deux petites choses. En fait, les pays les plus exposés donc à ce réchauffement climatique demandaient 60 milliards pour se protéger des effets de ce réchauffement. Bien sûr, il y a eu un refus de financer de la part des... Oui, Frédéric.
Oui, les pays les plus exposés, c'est ceux qui vont subir directement la montée du niveau des eaux. C'est-à-dire, c'est des pays qui sont déjà, notamment le Bangladesh, qui est déjà...
Les pays du tiers-monde.
Oui, non, mais je veux dire, il y a des pays qui sont plus ou moins...
Et donc, les 60 milliards, bien sûr, leur ont été refusés. Et parallèlement, les États-Unis vont débloquer 60 milliards pour réparer les conséquences de... Comment ça s'appelle, un ouragan, c'est ça, non ? Sandy, c'est ça?
Voilà,
donc c'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, je voulais juste citer les paroles du négociateur africain qui sont reprises dans Le Monde de dimanche lundi. Il dit, donc je cite, « Je ne peux plus supporter leur arrogance en parlant des États-Unis. Ils sont la première puissance du monde. Je viens d'un pays pauvre, nous n'avons plus rien à nous dire. » Je pense que la gouvernance mondiale... est en train de se noyer.
Ok, d'accord. Donc, pas de gouvernance mondiale, oui, Fred ?
Bah, tout n'est pas perdu, parce qu'à Doha, on en est quand même ressorti avec une jolie petite chanson qui est censée mobiliser tous nos...
qu'on va écouter tout de suite, d'ailleurs. Allez, écoutons-la. Bonjour à toutes et à tous, donc vous êtes de retour toujours dans l'émission Un air de vie sur Principe Actif. Donc je rappelle le sommaire du jour, les écoquartiers, donc avec notre invité. Notre invité, donc monsieur Michel Rousset du CAU E27. Alors d'ailleurs, si en deux mots, même trois mots peut-être si vous préférez, nous dire qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est.
Bonsoir, oui, le CAUE de l'Eure, c'est une association qui fait du conseil, de la sensibilisation et de la formation sur tout le champ de l'architecture, de l'urbanisme, des paysages et de l'environnement. Donc, il existe depuis 5 ans dans l'Eure. Il est financé par une taxe que payent toutes les personnes qui déposent des permis de construire dans ce département.
Ok, donc on a exactement le parfait invité pour le sujet du jour, car le sujet du jour, je le rappelle, sont les écoquartiers. Et là, Jérôme, justement, tu vas nous dire aussi en quelques mots, qu'est-ce que ce mot à la mode qu'on entend un peu partout dans les journaux et à la radio ?
Alors c'est vrai qu'un écoquartier, la première idée que l'on peut en avoir, surtout quand on est un assidu de Consomag, eh bien c'est un quartier où tout est beau, il y a des petites fleurs, où il n'y a pas de voiture, etc. Alors c'est vrai que la première définition qu'on peut donner à un écoquartier, c'est une définition un peu restrictive qui est purement environnementale. Mais en fait c'est un endroit à habiter, etc. où on va mettre en œuvre des techniques, des pratiques qui permettent de réduire les consommations d'énergie, etc. Où on va avoir des pratiques qui concourent à préserver la ressource en eau et où on va se déplacer autrement. Alors ça, c'est une première approche environnementale, un peu restrictive. Et en fait, on peut ajouter d'autres éléments. Bon, il y a aussi une approche sociétale. Mais en fait, il y a des gens qui vont y vivre et ils vont avoir d'autres rapports. Notamment, on va en parler plus tard. Ils vont avoir des contrôles.
C'est une forme de volonté de mieux vivre, en fait.
Exactement. Alors, il y en a même qui se disent aujourd'hui investis d'une action publique, puisque je rappelle qu'un écoquartier, c'est aussi un outil pour réduire les gaz à effet de serre, etc. Donc, certains se disent voilà, investis d'une action publique. Mais en même temps, il y a des rapports qui se crée entre les habitants, de l'écoquartier et le reste de la ville qui accueille donc cet écoquartier. Mais on peut aussi intégrer une approche en termes d'urbanisme. Alors Michel, je pense qu'une définition rapidement en dit, mais peut-être vous voulez ajouter quelques mots.
Non, moi je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une demande de citoyenne très forte d'habiter autrement, de pouvoir vivre mieux la ville et la nature un peu de façon mixte et mélangée. On a besoin aussi de plus de proximité dans les espaces urbains, et donc cette dynamique éco-quartier, elle prend elle prend de plus en plus corps, mais moi je dirais c'est l'urbanisme ordinaire qu'il faut réformer aussi pour que les choses changent en profondeur et pour tout le monde. Parce que c'est vrai que souvent on est dans des pratiques un peu militantes, on va dire, dans ces écoquartiers.
Eh bien justement, je propose à tous les auditeurs d'écouter un petit reportage sur Fribourg, car Fribourg reste l'un des meilleurs exemples des écoquartiers. On va dire même un exemple, bon, c'est pas péjoratif, mais quasi publicitaire. Allez, on vous l'envoie.
Fribourg, en Allemagne. Ici, pas de gratte-ciel futuriste, ni d'autobus volant. Pourtant, c'est bien à cela que pourrait ressembler la ville de demain. 220 000 habitants et presque autant de vélos, c'est la ville la plus verte d'Allemagne. Sa plus grande fierté, le quartier Vauban, avec 5 000 habitants et sa liste d'attente toujours plus longue.
Je me sens vraiment bien ici. C'est un quartier très vivant et très sympathique. Dès le début du quartier, nous nous sommes investis avec les autres habitants pour changer le projet d'origine, pour en faire un quartier à notre goût. Nous voulions simplement de la verdure et de l'air pur. Du coup, ce quartier attire beaucoup de monde, beaucoup de familles avec enfants.
Ici, un tiers des habitants a moins de 18 ans. Et les enfants sont les rois de la rue. Le quartier est conçu selon un principe simple, mais radical. Supprimer les voitures pour faire de la place aux humains. Fini les places de parking au pied des immeubles. Tout est fait pour décourager l'usage de la voiture.
En fait, dans la plupart des rues du quartier Vauban, il n'y a pas de parking devant les maisons, ni privé, ni public. Ici, nous sommes dans un des deux seuls garages du quartier. Les habitants qui possèdent une voiture sont obligés de louer une place de stationnement ici. Ils doivent même signer une lettre où ils s'engagent à ne pas se garer dans la rue.
Résultat, seuls 30% des habitants possèdent une voiture. La plupart n'en ont pas besoin. Le centre-ville est à 10 minutes de tramway, à peine plus en vélo. Mais pour faire une ville verte, il ne suffit pas de construire des pistes cyclables. À Vauban, même les immeubles sont écologiques.
Alors vous voyez le toit solaire qui produit le surplus d'énergie pour ces maisons qui sont en énergie positive.
Ça veut dire que le bâtiment est conçu pour produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Bien sûr, à la construction, c'est plus cher, 10% de plus pour bien isoler la maison, mais ce surcoût est vite amorti.
Alors on est là, on a les compteurs électriques. Et donc, on trouve le compteur qui, pour la production d'énergie par les panneaux photovoltaïques. Et ici, c'est le compteur qui compte donc la consommation. Et on voit qu'il y a une différence nette, donc un surplus de production.
Chaque kilowattheure produit rapporte donc de l'argent. Ou comment faire rimer écologie avec économie. Bref, nous sommes encore loin des voitures volantes. Mais qui en a vraiment envie? Fribourg veut être une source d'inspiration pour les villes du futur.
Alors. Bonjour, allez, vas-y Fred. C'est
oui,
parti.
Donc alors ce reportage sur Fribourg ressemble en effet des fois un petit peu plus à une publicité qu'à un vrai documentaire, mais en même temps Fribourg, au fil des années, c'est devenu ça, c'est devenu une ville vitrine de ces fameux écoquartiers avec ce quartier Vauban qui n'est pas un des premiers écoquartiers en Allemagne, mais qui est le symbole de la construction de ce type de structure.
Alors, quelle est la particularité de ce quartier Vauban, alors?
Alors, la particularité du quartier Vauban, c'est que ça s'est construit, il s'est créé en Allemagne, suite à un refus de la construction de centrales nucléaires. Et c'est une ville qui a fait un choix important, un choix militant. Et pour refuser le nucléaire, ils ont cherché des solutions alternatives. Et à travers ça, il s'est créé ce quartier. Le quartier Vauban, c'est d'abord un site. C'est le site des anciennes casernes françaises qui étaient à l'abandon. Il a été repris par des habitants. Donc ce sont des militants qui ont construit un projet. Ce projet a été remis en cause. Des gens qui sont très impliqués dans le mouvement. Et ensuite, y a eu la question des moyens, où les choses se sont faites progressivement avec des choix énergétiques, des choix dans la production d'électricité, des choix dans le type d'isolant, et aussi des choix de société dans le type d'organisation du quartier. Fribourg, c'est soit...
Je me permets de te couper, mais ce sont des choix qui ont été faits à quel niveau, en fait? C'est-à-dire, c'est les citoyens d'eux-mêmes qui sont organisés, mais quid de la question politique et des élus? Comment ça s'est passé?
Alors, la question pour Fribourg ne se pose pas vraiment comme ça, parce que comme c'est un des premiers quartiers qui s'est construit, les choses se sont faites un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, maintenant, il sert de modèle, et c'est rétrospectivement qu'on qu'on réfléchit à comment ça s'est construit. Eux, ils étaient dans la ville de Fribourg et ils ont pris les choses en main. C'est vraiment des gens qui ont pris les choses en main pour construire le quartier qu'ils voulaient. Donc les choses se sont faites un peu au fur et à mesure. On entend dans le reportage que les gens ont été aussi... Il y a eu des débats. C'est vraiment un lieu de débat, un lieu de construction. Et le résultat aujourd'hui est encore en train d'évoluer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça sert de modèle. C'est un endroit qui est visité par de nombreux décideurs européens, même au-delà de l'Europe, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, dans leur ville, pour construire un éco-quartier. Et derrière ça, derrière l'expérience de Fribourg, on peut quand même ressortir des points communs, en sachant que tous les éco-quartiers ne seront pas Fribourg, puisque nous sommes en Allemagne, dans un autre pays, avec d'autres habitudes. Mais en même temps, il y a quand même quelques points communs qui vont ressortir dans la construction d'un écoquartier. Déjà, un écoquartier, c'est un site, c'est ce que je disais pour le cas de Fribourg, où c'est les anciennes casernes. C'est une volonté avec des gens qui sont impliqués et des moyens. C'est vraiment le trio qu'on va retrouver dans la construction des écoquartiers. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de développer, et c'est ce qu'on va essayer un peu de ramener en France, de ramener à Évreux, pour construire un petit peu cette émission sur les écoquartiers.
Donc, Monsieur Michel Rousset, vous confirmez donc cette idée d'un Fribourg comme un satellite, tout simplement, une méthode à aller vers, tendre vers?
Oui, en tout cas, c'est une référence qui fait rêver tout le monde.
Qui fait rêver tout le monde. Ouais, l'Europe entière, les États-Unis aussi?
Qui fait rêver les gens qui ont envie de vivre un peu autrement que comme on vit. Alors, je ne sais pas comment vous regardez les États-Unis, vous, mais... je ne sais pas répondre à cette question, mais en effet, les gens qui veulent vivre un peu autrement, c'est une référence très très importante. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'initiative citoyenne, elle est très puissante, et qu'en France, elle est très régulée par le pouvoir politique.
Et cette puissance en Allemagne, elle vient de quel facteur ?
Une conscience citoyenne qui est peut-être très développée, je ne sais pas, ou un mode de gestion de la société civile en général qui est bien différent de la nôtre. Nous, on a une régulation de nos sociétés à des toutes petites échelles communales de 500 habitants. Mm-hmm. Donc, c'est des communautés qui existent avec un élu qui représente la République, hein, le maire. En Allemagne, des communautés, la gestion institutionnelle et territoriale, elle est beaucoup plus vaste. Nous, on est une échelle très petite et du coup, c'est une relation citoyenne avec les élus qui est beaucoup plus intime, je dirais. Et du coup, l'initiative citoyenne, elle est conjuguée beaucoup plus fortement.
Ok, écoutez, le thème du jour est vraiment bien lancé. Petite courte page musicale et on revient sur le sujet. We'll be right back.
flow. Eeny, meeny, miny, moe. Throw them type of niggas right out my window. Blast your ass, hit you with a direct blow.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez désormais maintenant sur Principe Actif dans votre nouvelle émission Un air de vie, enfin nouvelle émission, c'est déjà la troisième. Le sujet donc du jour, ce sont les écoquartiers. Et je crois, Jérôme, que sur les écoquartiers, on a parlé de Fribourg. Et ce qu'on veut mettre en avant avant tout, c'est qu'on parle de sites.
Exactement. C'est vrai qu'avant de parler des différentes techniques, notamment pour produire sur place, pour produire moins d'électricité, pour consommer moins d'électricité, pardon, etc., il faut s'intéresser avant tout au site qui va accueillir cet écoquartier. Alors c'est vrai que la plupart des exemples qu'on a en tête, notamment on parlait celui de Fribourg, les écoquartiers se créent sur, on va dire, des friches industrielles, sur des quartiers d'habitat, on va dire, dévalorisés, à un moment et qu'il va falloir rénover ou reconstruire. C'est notamment un élu Tourcoing qui parlait de reconstruire la ville sur la ville. Et donc, il va y avoir un enjeu particulier vis-à-vis de ces sites qui sont dévalorisés, qui ont une image particulièrement négative, c'est de donner un aspect neuf et d'y associer une démarche qui est totalement contemporaine, qui est celle de la protection de l'environnement. Donc on est quasiment dans une démarche de modification de l'identité d'un site qui va devenir quasiment, au bout du compte, la vitrine d'un territoire. Alors ça, c'est le premier, on va dire, c'est le premier paramètre pour définir, pour trouver un site, pour dire qu'un site peut accueillir un écoquartier. Mais évidemment, il y a aussi...
Enfin, Jérôme, rassure-moi, mais il ne faut pas forcément une usine désinfectée pour pouvoir faire un écoquartier. On peut quand même avoir un habitat plutôt sain et développer un écoquartier quand même.
Non, mais en revanche, à l'opposé, on ne va pas construire un écoquartier sur du terrain agricole. Alors là, Michel, voilà, je pense que c'est un enjeu particulier. On part avant tout quand même d'un existant.
Oui, c'est vrai que c'est plutôt important de renouveler la ville sur elle-même quand on a ce type de démarche, plutôt que de penser l'étendre à l'infini sur des espaces qui n'avaient pas la même vocation au départ. Et c'est vrai qu'on est face à un étalement urbain très très fort, notamment dans ce département, qui est très soumis aux pressions des grandes agglomérations qui lui sont périphériques. Et les écoquartiers, ils pourraient d'abord, en effet, s'intéresser à la question du renouvellement urbain, qui n'est pas la question la plus simple, parce qu'économiquement parlant, moi j'appelle ça une filière bloquée, c'est-à-dire qu'économiquement, il n'y a plus un opérateur qui a envie de faire proprement...
De réhabiliter les choses, de faire bien les choses.
Ouais. Mm-hmm. Jérôme.
Alors c'est vrai qu'on parlait de Fribourg, mais il y a d'autres exemples. Par exemple, à Berlin, le quartier de Kreuzberg, vous m'excuserez de ma prononciation de l'allemand.
On t'excuse.
Donc voilà, c'était un quartier d'habitat, mais totalement insalubre, en grande partie squatté, occupé par une population pauvre. Donc c'est vrai que les autorités locales ont souhaité recréer quelque chose de nouveau, et ça a été un écoquartier. Il y a d'autres exemples. Il y a Malmö, en Suède.
Il y avait 160... Ah, il n'y a pas que l'Allemagne, heureusement.
Et voilà. Mais on va arriver au bout du compte. C'est vrai que jusqu'au début des années 2000, il y avait quand même un modèle nord-européen. Okay. Voilà. Donc Malmö, friche industrielle après le départ donc des usines Saab, hein, Saab le constructeur automobile. Mais on peut aller un peu plus dans le sud, Bologne. Le quartier du marché aux légumes, pareil, totalement paupérisé. Donc 30 hectares de friche industrielle. Et donc là, une volonté donc de la municipalité de créer quelque chose de nouveau en y associant une approche environnementale.
Mais Bologne était quand même réputée comme une ville assez jeune, très universitaire, avec une population très avant-gardiste un petit peu. Est-ce que ce n'est pas toujours des exceptions, sont finalement ces villes ?
Alors non, pas forcément. Et donc Frédéric pourra compléter mon propos après. C'est que en France, il y a aussi un modèle français qui se crée, plutôt porté par les collectivités territoriales. Mais si on prend le cas de Dunkerque, notamment à Grande-Synthe, hein, là, ce sont des logements sociaux construits dans les années 70 avec... catastrophique en termes d'isolation thermique, etc. Et donc, il y avait un projet de rénovation qui est en train de voir le jour et voilà, qui constitue un écoquartier aujourd'hui. Frédéric ?
Oui, voilà. Non, mais moi, je voulais revenir sur le cas de Bologne où, en fin de compte, ils ont voulu se réapproprier un quartier qui était paupérisé. Et c'est-à-dire, c'est un petit peu un moyen aussi de faire fuir les bas revenus pour se réaccaparer certaines zones de la ville par... les fameux bobos.
Non, mais ça peut être aussi
un danger par rapport à la construction des écoquartiers où on va récupérer certaines zones de friches pour aller construire des quartiers qui vont devenir à nouveau attractifs.
Et donc, tu parles là justement, c'est un phénomène que tu as constaté dans plusieurs phénomènes d'écoquartiers ou c'est une tendance lourde ?
Alors non, c'est pas une tendance lourde, c'est plutôt un danger qui est derrière toutes ces constructions d'écoquartiers où en fin de compte, en construisant un écoquartier, en faisant venir des gens qui sont militants, impliqués, on va souvent faire fuir ou rejeter des populations qui sont plus fragiles ou... qui sont de fait moins impliqués dans la démarche écologique. Donc c'est vraiment une question qui va en parallèle avec la construction des écoquartiers.
Ok.
Alors donc on parlait du choix du site et notamment de se réapproprier un espace urbanisé mais dévalorisé totalement et donc mais aussi la préoccupation environnementale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un écoquartier c'est de l'habitat souvent collectif, pas individuel puisqu'il y a d'autres préoccupations justement d'essayer de ne pas grignoter les terres agricoles etc. Et dans cet écoquartier il va falloir y installer des techniques qui concourent à la préservation de l'environnement. Alors comme on l'indique généralement, les orientations, c'est y mettre des techniques qui permettent de consommer moins d'électricité, voire même de produire sur place. Alors, si on prend le cas du quartier de Kranzberg à Hanovre, en Allemagne, eh bien, il y a un programme de production qui est local, production d'électricité. Notamment, il y a deux éoliennes, il y a des panneaux photovoltaïques sur les édifices publics. Et puis, il y a une isolation très renforcée, une isolation thermique très renforcée de l'habitat, avec des seuils qui font envier aujourd'hui. Je vous rappelle que... en France, nos écoquartiers ont comme fin projet d'avoir une consommation d'énergie qui est de l'ordre de 50 kWh par mètre carré par an. À Hanovre, on est à 15. Voilà. Donc voilà l'approche, une des facettes de l'approche environnementale. Frédéric ?
Vas-y, Fred.
Oui, donc alors après, si on veut élargir un peu si on veut revenir à Évreux, sur la question un peu des écoquartiers, on l'a actuellement sur Évreux, il y avait deux sites qui étaient. Qui allait un peu dans ce chemin-là. Il y avait le site des usines de Navarre. Mmh. Et c'est un peu ce qui a fait l'actualité de cette émission aujourd'hui. C'est que, ça y est, la démolition des usines de Navarre a commencé. C'est-à-dire que le projet qui va apparaître à cet endroit-là n'utilisera pas l'existant. C'est aussi un peu la culture de la ville qui va disparaître.
Alors justement, en Navarre, tu parles de Navarre, mais c'est peut-être justement un cas typique où justement il y a... En fait, un phénomène où on ne comprend pas trop ce qui se passe, qui sont les responsables, les élus, les citoyens, entre les développements de projets. On a un petit peu du mal à faire un éclairage là-dessus. Mais justement, donc, vous, monsieur Michel Rousset, donc, vous êtes le président, je rappelle, du
directeur.
CAUE, le directeur, ça fait mieux, oui, du CAUE 27. Est-ce que vous pouvez rappeler encore aux auditeurs ce que c'est ?
C'est une structure qui fait du conseil aux collectivités locales qui veulent s'engager dans des projets un peu innovants en matière d'urbanisme, d'architecture et d'environnement. Donc, qui pourrait faire des écoquartiers,
si on ne parle que de labels.
Et puis, qui fait aussi du conseil aux particuliers. Et je voulais réagir tout à l'heure sur la question des populations et des bobos, parce que finalement, le CAUE, c'est l'endroit où on pourrait, fabriquer progressivement une culture habitante pour tout le monde, pour chacun, et pas forcément par simplement ceux qui ont déjà du temps et déjà de l'argent ou des moyens pour penser leur vie différemment.
Alors, votre structure de conseil, justement, où étiez-vous justement pour la problématique des usines de Nava?
Alors nous, quand on fait du conseil, comme on est une association, on ne fait du conseil que si on nous pose une question. Donc on est peu intrusif.
On n'a pas pu porter votre voix.
On est peu intrusif sur le militantisme associatif qui est d'habitude présent dans les associations en général de défense de l'environnement. Nous, on n'est pas une association de défense de l'environnement. On est une association qui vise à promouvoir la compétence, la qualité, la réflexion de l'ensemble des acteurs.
Jérôme, je crois que tu voulais réagir.
Oui, notamment repartir vers le projet d'éco-quartier qu'il y a eu et qui est encore aujourd'hui sur le quartier de Saint-Michel à Évreux, baptisé l'éco-quartier Lafayette, sur la cité de Lafayette. Donc je rappelle, donc un certain nombre de maisons individuelles construites au début des années 60, occupées pendant longtemps par des militaires qui étaient sur la base aérienne 105. Et donc il y avait un projet envisagé donc, par 4 bailleurs sociaux. La question qui nous a animé aussi, c'est quel intérêt de faire un éco-quartier à Saint-Michel? À un moment, est-ce que on peut envisager, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager quasiment une éco-cité? Alors Frédéric, tu souhaitais aussi intervenir dessus.
Alors moi, sur l'éco-cité, je ne veux peut-être pas venir, parce que déjà on est sur les éco-quartiers. Après, c'est vrai que le cas de Lafayette est intéressant, parce qu'en fin de compte, le seul éco-quartier qui est actuellement en construction, entre guillemets, parce qu'il est en projet, je veux dire, à Évreux, c'est sur le quartier de Saint-Michel, sur un quartier résidentiel, où il va y avoir à nouveau une construction à neuf. Et alors c'est une volonté. Moi, je pense que les gens de Saint-Michel sont déjà des gens qui sont relativement impliqués. Et pour moi, c'est une existence qui est soit... De toute façon, je pense qu'à la base, c'est intéressant de construire un éco-quartier. Après, je ne sais pas si c'est cet éco-quartier-là qui était le plus indispensable aujourd'hui. Vraiment, moi, je voudrais revenir sur les problématiques des usines de Navarre et sur la problématique de nombreux endroits à Évreux où il y a du bâti existant qui n'est plus occupé. Et je pense que par rapport à cette thématique du site, je pense que sur la ville d'Évreux, on a plusieurs sites qui pourraient faire l'objet d'une réflexion sur la construction, sur la constitution peut-être d'un éco-quartier ou au moins sur la rénovation ou la réhabilitation de certains logements existants.
Parce que si on revient sur l'approche générale environnementale d'un éco-quartier, c'est vrai qu'on a parlé d'énergie, il y a aussi la préservation de la ressource en eau, mais il y a aussi les déplacements. C'est vrai que bon, quand on pense à Évreux, on pense à une cuvette. Et les déplacements, à un moment, quand j'habite Saint-Michel, que je vais à Carrefour, je prends ma voiture. Voilà. Donc il y a aussi cette problématique à prendre en compte. Évreux a une configuration particulière. Et la question de l'éco-quartier, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle s'entende aussi avec les communes périphériques? Et je crois que Michel, vous avez une idée dessus.
Navarre et Saint-Michel, c'est deux sites qui sont assez emblématiques dans le développement urbain d'Évreux. Et qui sont difficiles parce que l'économie de l'aménagement aujourd'hui, il n'est pas sur la reconversion du bâti existant. Il est sur l'extension urbaine, c'est ça qui est le plus simple à faire. On a aussi la simplicité de démolir les trucs qui ne marchent pas bien quand c'est des cités HLM.
Juste une question de simplicité ou peut-être même de coût?
Pour moi, c'est une question de simplicité. Parce qu'en 2014, on sera obligé de réinvestir sur les espaces construits pour mettre aux normes énergétiques et donc faire des micro-éco-quartiers dans chaque maison individuelle de tout le monde. Tous les bâtiments devront être à des normes écologiques relativement fortes.
Je profite que vous ayez la parole. Est-ce que vous pouvez justement définir aux auditeurs la différence que vous parlez d'éco-quartiers, d'éco-cités? Est-ce que vous pouvez un petit peu... C'est simplement une question de taille
Moi, je n'aime pas beaucoup les labels. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à parler de politique urbaine ou de projets urbains qui seraient labellisés éco-quartiers parce qu'on consommerait moins d'espace, moins de gaz à effet de serre, moins de je ne sais quoi.
Pas de médaille autour du cou.
Voilà, c'est ça. Je ne trouve pas ça très, très intéressant. Ce que je trouve d'intéressant, c'est quand les démarches des élus locaux, des propriétaires fonciers, des habitants et des usagers d'un territoire se mettent ensemble pour réfléchir à avoir un impact sur la planète ou sur leur territoire qui est le plus faible. et où donc on trouve à proximité tous les services dont on a besoin. Encore faut-il décider de quel service on a besoin. Donc si on est sur Saint-Michel et qu'on veut absolument acheter dans une grande surface, bah, il faut prendre sa bagnole en effet, et il n'y a pas d'autre solution sauf à faire venir la grande surface.
On y arrive.
Mais on peut choisir les choses
quand
et,
vous parlez
et les projets
de,
et les
vous
programmes.
Parlez de services, vous parlez de type de service de proximité, en fait c'est d'avoir tout comme avant, finalement un peu comme dans le village d'Astérix et Obélix, où il y a tous les le boucher, le poissonnier, etc. Et on peut se déplacer finalement à pied et on connaît les gens, il y a une forme de proximité, des déplacements qui permet cet rapprochement, c'est cette idée-là ?
Ouais, c'est cette idée-là, mais cette idée-là, elle ne marche pas non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même, on n'est plus des Gaulois tout à fait. Et du coup, il va falloir composer avec cette idée
avec
qui est une
Romains.
Bonne idée. Donc il faut trouver une manière de faire vivre les territoires dans des services de proximité, et il ne faut pas rêver que l'homme moderne ne se déplace plus, parce que sinon il va s'embêter tel qu'il
Fred,
le fait.
Tu, bah sais, non, mais, tu souhaites réagir, oui.
Oui, non, je souhaite compléter, parce que c'est vrai que dans la construction des écoquartiers, il y a vraiment cette mentalité-là de reconstruire un peu, alors tu parlais des villages gaulois, mais d'un espèce de centre où les gens vont se retrouver, vont se rencontrer, vont vivre ensemble. Parce qu'en fin de compte, dans la construction des écoquartiers, c'est très important cette notion de vivre ensemble. Et soit il y a des contraintes, mais c'est quand je prends plus ma voiture, je me déplace à pied. Quand je me déplace à pied, je croise des gens. Je vais parler, je vais avoir une boutique de proximité. C'est vraiment une problématique qui est très, très importante dans les écoquartiers, dans leur imagination. Après, dans leur réalisation, je ne peux pas dire, je ne sais pas si ça fonctionne si bien que ça, mais c'est vraiment une volonté qui est, je pense, derrière les écoquartiers.
Jérôme.
Alors, peut-être pour conclure.
Allez.
Effectivement, et la question qui se pose, c'est la taille de l'écoquartier. Aujourd'hui, est-ce que Évreux a la dimension pour avoir son propre quartier, son propre écoquartier ? Est-ce que, par exemple, l'écoquartier de Lafayette ne devrait pas être plutôt pensé vers les communes proches, c'est-à-dire notamment Aviron, et envisager plutôt des liens, des services locaux, etc., mais non plus à l'échelle de la commune, mais à l'échelle de l'agglomération, et orienter vers les échanges qu'il peut y avoir. Voilà.
Ok, et bien justement, voilà, on va s'arrêter sur cette petite conclusion de Jérôme pour une nouvelle page musicale. Je vous propose le Dave Brubeck Quartet en hommage à sa mort et son morceau le plus connu, mais qui d'ailleurs je crois qu'a été composé pas par lui mais par Desmond, Take Five, tout de suite. Thank you. Retour sur l'émission du jour sur les écoquartiers avec notre invité, monsieur Michel Rousset du SAUE 27, l'association donc, qui prodigue des conseils sur le sujet. Et nous allons donc essayer de définir le cadre donc, de cet écoquartier. Et dans ce cadre, à quoi correspond cette volonté citoyenne?
Alors, déjà pour rappeler qu'un écoquartier, comme on l'a indiqué tout au long de nos propos, c'est un ensemble de bâtis qui. Dans lequel on a intégré des techniques qui permettent de consommer moins d'énergie, voire même de produire de l'énergie localement. Alors consommer moins d'énergie, de l'isolation, mais aussi des bonnes pratiques de la part des habitants. J'achète un réfrigérateur qui est norme A et non pas F, etc. J'essaie de produire de l'énergie localement, donc je mets des panneaux photovoltaïques, je fais de la géothermie lorsque c'est possible, je me raccorde à un réseau de chaleur urbaine quand c'est possible, etc. J'essaie d'utiliser de l'eau de pluie. Je fais un énorme réservoir, je la récupère, j'installe des pompes, ça alimente donc les toilettes, les lave-linges, etc. Et puis je sors de mon écoquartier, donc la voiture, je la mets en périphérie, je fais venir des transports en commun dans cet écoquartier, et tout ce monde respecte voilà des bonnes pratiques, les techniques mises en place, etc.
Alors je te coupe Jérôme parce que Fred sursauter sur son siège.
Ah non, je voulais pas interrompre Jérôme. Je voulais qu'il aille au bout de ce qu'il avait à dire. C'est juste qu'en fin de compte, quand il disait « quand je peux », dans la construction d'un écoquartier, on peut le faire. C'est-à-dire que c'est des structures qui existent, les récupérations d'eau de pluie, le chauffage collectif urbain, et c'est même des choses, par exemple, sur l'utilisation de la voiture, je ne sais pas, quand vous avez entendu le reportage sur Fribourg, les gens qui acceptent d'habiter dans les écoquartiers signent un papier comme quoi ils s'engagent à mettre leur voiture dans un parking collectif. C'est vraiment une démarche d'habitant.
Charte éthique.
Voilà, non mais je veux dire, c'est pas si je peux, c'est en fin de compte, je veux le faire et je le fais. Et ça demande vraiment une implication de l'habitant, les gens se fédèrent autour d'un projet, parce que je veux dire, on peut dire que c'est contraignant, mais à Fribourg, ils ont une liste d'attente pour venir habiter à Fribourg, et ces contraintes-là, on les accepte. Mais pour qu'on accepte ces contraintes, c'est qu'il faut en face, il y ait des choses qui soient mises en place.
Bon, on va quand même profiter de notre invité, justement, pour savoir, est-ce qu'il y a un soulèvement populaire de volonté d'éco-quartier sur Évreux, ou justement, il y a encore beaucoup d'éducation à faire à notre cher petit peuple d'Astérix?
Non, on est loin du soulèvement populaire.
On est loin.
Là, c'est bien clair. Moi, je voulais aussi réagir sur l'idée de la technicité. C'est pas le cumul de technicité qui compte, c'est le cumul d'initiatives habitantes qui serait le plus merveilleux à envisager sur un quartier.
Mais d'initiatives individuelles, personnelles dans son coin, ou à la base il faut...
Ce qui est le plus intéressant, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble en étant le plus léger possible sur le territoire et la planète. Donc la manière d'être léger, est-ce que ça passe par de l'énergie photovoltaïque? Est-ce que ça passe par réduire la voiture et avoir absolument un autobus, etc.? Si on se met des normes techniques absolues, définitives et préalables à la construction du collectif et du vivre ensemble, on n'y arrivera jamais. Moi, je veux aller en vacances avec ma famille à tel et tel endroit. J'y arrive jamais quand je décide ça. Quand je commence à poser la question, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? On a la chance d'aboutir à quelque chose.
Jérôme.
Et j'ai l'impression qu'on est souvent dans les logiques éco-quartiers parce qu'on cherche à définir le label, à faire la liste de ce qu'il y a absolument nécessairement dedans. Alors, ce qu'il y a dedans, c'est essentiellement de l'énergie habitante, de la solidarité,
mais
de la
pensée
collective.
Mais pour vous, c'est ça à mettre en avant. L'esprit collectif avant tout.
Totalement. Et d'ailleurs, bon, je reviens quand même à la question centrale. Quelle est la place de l'habitant aujourd'hui dans les éco-quartiers? C'est vrai qu'on a différents exemples d'implication des habitants. Alors, aussi bien dès l'élaboration du projet, et là je peux vous citer justement le cas d'un écoquartier à Amsterdam, où ce sont les habitants eux-mêmes qui ont réalisé une pétition pour que le quartier qui devait être habilité le soit selon les normes écoquartier, etc. On a différents moments,
Jérôme, s'il te plaît, cet exemple de cette pétition, par exemple, tu nous dis concrètement que nous à Évreux, là, on s'organise, on fait une pétition et on aura le même pouvoir que les Hollandais ?
Ah non, pas totalement.
Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous alors ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et par quel trou de souris justement on peut rentrer alors ?
Ce qui ne va pas chez nous, c'est ce qu'on appelle le jacobinisme. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une centralisation du pouvoir de décision, etc. Et donc une initiative populaire, comme tu l'appelais, aujourd'hui a peu de chances de faire déboucher, si ce n'est par la pression auprès d'élus, de faire déboucher une réhabilitation, etc., ou une rénovation sur un éco-quartier.
Parce que pour toi, ça, c'est vraiment la réelle différence. C'est qu'aux Pays-Bas, il y a une forme de démocratie locale plus forte que chez nous.
Alors, je prends encore un exemple avant de donner la parole à Frédéric et à Michel Kibou. Oui, par exemple, si je prends le cas d'une association hollandaise qui s'appelle Eva Lexmerk, donc ce sont les écologistes, eux avaient fait leur projet dans leur coin, dans leur bureau, au rez-de-chaussée de leur radio locale. Et puis donc, ils ont cherché des collectivités, des communes qui pourraient accueillir leur projet. Et donc, ils en ont trouvé une. Donc, je passe le nom de cette commune hollandaise qui est un peu compliquée à prononcer.
On pardonnera.
Et donc voilà, ils ont réalisé leur projet sur cette commune qui a priori avait d'autres orientations pour les espaces dont ils disposaient, les espaces qu'ils avaient pour ils les avaient avant tout protégés comme espaces naturels. Ils ont accepté ce projet de quartier. Voilà.
Fred.
Non, alors moi je voulais juste enchaîner sur. La question, elle n'est pas de savoir est-ce qu'on va reprendre le modèle allemand, est-ce qu'on va prendre le modèle suédois, est-ce qu'on va prendre le modèle hollandais. La question, elle est qu'est-ce qu'on fait en France. On peut toujours se dire, oui, on a un mode de fonctionnement, on a tout ça, mais en même temps, on a quand même le moyen de faire les choses.
En France ou simplement chez nous, à l'échelle locale
parce
le côté individu et pas forcément de voir ça d'une manière
globale. Pour moi, la réponse, elle sera forcément locale. C'est-à-dire ça demande une prise en charge au niveau de la commune. Et je veux dire, on ne peut pas toujours se cacher derrière, on ne peut pas faire, on n'est pas machin, on n'est pas. La volonté, si elle existe vraiment, on est quand même dans un pays démocratique avec des moyens d'action. Et c'est cette volonté-là, on doit pouvoir la faire exister. Après, la question pour moi, elle est surtout, est-ce qu'elle existe, cette volonté-là ? Est-ce que les gens sont prêts à aller dans ces chemins-là ? Là, on se retrouve tous autour de la table en disant oui, non, mais derrière, il va falloir quand même qu'il y ait une vraie volonté. Je pense que s'il y a une vraie volonté, on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt en disant oui, mais non, ce n'est pas possible, on est en France. S'il y a une vraie volonté de le faire... En France et à Évreux, on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir s'exprimer. On doit pouvoir avoir cette exigence vis-à-vis des élus.
Michel Rousset, votre avis ?
Oui, deux mots. Bien sûr que c'est possible. Et alors, il faut y aller tout doucement. Il faut y aller tranquillement. Mais il faut y aller avec beaucoup d'ambition également. Moi, je vous citerai deux exemples de travaux qu'on a démarrés avec les acteurs du département de l'Eure. L'un s'appelle l'appel à projet Habitat durable et formes urbaines. Et il vise à proposer, il y a 7 communes qui se sont engagées dans la démarche, à proposer à ces communes qui d'habitude font de l'étalement urbain, ont des zones d'urbanisation en périphérie de leur bourg ou de leur village, et on met des maisons individuelles banalisées sur ce qu'on appelle des tablettes de chocolat, chacun son petit lotissement de 1200 m2, et puis les maisons, elles se tortillent là-dedans comme elles peuvent. Et des habitants, après, l'accès à l'école et compagnie, tout le monde se dépatouille. On a fait une consultation, on a choisi 7 communes qui sont engagées dans une démarche un peu innovante pour faire en effet un peu autrement. On n'appelle pas ça éco-quartier, on aurait fait fuir tous nos partenaires financiers qui se sont engagés avec nous, la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil général, etc. Donc, on avance sur qu'est-ce que localement, après, à Charleval, on va pouvoir inventer de façon cohérente avec l'énergie des élus, avec la proposition des habitants et avec des scénarios d'architectes et d'urbanistes un peu pertinents.
Jérôme, je crois que tu souhaites réagir.
Oui, tout à fait. Pour revenir donc à l'implication des habitants, c'est vrai qu'elle est indispensable aujourd'hui. Et c'est vrai que si on n'a pas des habitants qui adhèrent au projet, aux pratiques, aux techniques dont on a doté l'éco-quartier, ce ne sera pas une réussite. Donc, c'est vrai que impliquer les habitants dès le début, notamment sous forme d'ateliers, j'ai aussi le cas d'ateliers dans le nord de la France, dans lequel il y avait donc les futurs habitants et bien sûr les promoteurs, les aménageurs, des ateliers animés par le CAUE, donc ça devait être le 59. Voilà. Après, L'habitant, il a un rôle aussi essentiel, donc Frédéric en a parlé un peu. À un moment, il y a la notion de charte, d'adhésion. Cette adhésion, il faut la formaliser. C'est-à-dire qu'il va falloir une sorte de contractualisation. On met un contrat en place, un contrat de principe, de bonnes intentions. L'habitant s'engage à respecter un certain nombre de choses, justement pour que ça fonctionne. Pour que, justement, je ne fasse pas rentrer ma voiture, pour que je ne déverse pas des détergents dans mon réseau d'assainissement, etc. Donc, l'application, elle peut même aller plus loin. Donc, on y reviendra peut-être après, mais l'implication, ça peut même parfois être quasiment un frein.
Et enfin, pour compléter ce que dit Jérôme, décidément, on ne fait que de se compléter ce soir. Je voulais juste dire qu'en fin de compte, les contraintes seront d'autant plus vite acceptées que c'est les habitants eux-mêmes qui les ont mis en place. Parce que je veux dire, il n'y a pas de modèle. Enfin, la question, elle est de se mettre ensemble pour penser à ce qu'on veut faire. Une fois que tout le monde est d'accord sur le projet, les gens vont accepter les contraintes. Si les contraintes arrivent d'une manière extérieure, sans qu'il y ait aucune décision, forcément, enfin, sans qu'il y ait aucune concertation, pardon, les gens ont d'autant plus de mal à les accepter. Mais ça s'appelle simplement la démocratie. Alors, à un moment ou à un autre, il faut que ça fonctionne.
Mais donc, j'ai quand même l'impression que le message que vous dites, c'est que, en fait, tout est possible. Et on est vraiment le message d'Obama. Et mais que ce message que tout est possible, qu'est-ce qui manque ? C'est simplement que les gens puissent se rassembler, en fait.
Ouais, puis qui partagent des idées un
c'est
petit
ça,
peu.
C'est ça la base du projet. Il faut déjà rassembler les gens pour qu'en janvier, sinon il n'y a pas de frein.
Ouais.
Alors vous entendez, il n'y a pas de frein.
Il n'y a pas de frein. Il faut déjà une volonté commune au départ et derrière. Non, mais parce qu'en même temps, on ne peut pas se cacher toujours derrière l'absence de volonté. À un moment, cette volonté, il faut qu'elle se crée. Il faut que les problématiques. Enfin, on va revenir à Doha.
On va y revenir juste après la page musicale, pardon. Los Peces de Laza. Tout de suite après, on y revient. Retour donc sur le dernier volet de notre émission Un air de vie, toujours sur Principe Actif. Profitons de notre invité, donc Michel Rousset, directeur du SAUE 27. Justement, on en parlait en off derrière la musique et on disait justement que la cause principale, enfin non, plutôt ce qu'on attend le plus finalement, c'est le rassemblement des gens, le rassemblement citoyen, populaire.
Oui, moi j'ai vraiment...
Vecteur d'initiative.
Oui, j'ai vraiment l'impression que si... On bouscule pas les modes de faire aujourd'hui qui sont très inspirés de l'économie la plus facile et la plus simple à mettre en œuvre au quotidien. Les élus, ils reproduisent les schémas qu'ils ont l'habitude de faire. Ils s'assurent de ne pas prendre de risques parce que, on commercialise aujourd'hui des lotissements, donc on fait de la maison individuelle et on ne se pose pas d'autres questions. Si par hasard, on faisait des choses compliquées...
En disant ça, vous dites que les élus n'écoutent pas les citoyens ?
Non, je dis que... Pour réussir quelque chose dans un temps court, il ne faut pas qu'ils prennent trop énormément de risques. Donc, on reproduit plutôt des choses faciles qui sont à la disposition des gens et on n'est pas toujours dans l'innovation et dans une recherche ou une pensée un petit peu plus innovante. Donc, il faut une communauté d'hommes et de femmes qui se posent la question de comment on urbanise le territoire demain, comment on veut vivre demain sur un territoire. On a la chance d'avoir des tout petites communes avec des communes qui font 500, 800 000 habitants.
J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas le rôle des élus justement de se charger de ces missions-là et de cette réflexion ?
Ouais. Mais il faut qu'ils aient la possibilité de s'y investir en ayant un peu confiance dans les initiatives locales qu'ils peuvent susciter ou accompagner, plutôt que dans les systèmes économiques sur lesquels ils ont des assurances fortes aujourd'hui.
Et vous, votre point de vue sur les coûts, justement, parce qu'on entend tout ça, les projets, la volonté des gens, les envies, mais... Concrètement, avons-nous les moyens tout simplement de réaliser ça humainement et justement éviter ce phénomène bobo ? Parce que si ce phénomène bobo existe, c'est que c'est quand même une réalité économique.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut penser l'aménagement urbain, le développement de l'habitat, des services demain, avec des systèmes plus de troc de services locaux. Qui met en œuvre et en partage des compétences et des savoir-faire plutôt que de ne juste penser économie de la construction, économie de l'aménagement, économie du foncier.
Oui, mais c'est là un coût, justement, faire venir et structurer les gens, les architectes. Il faut que tout soit pensé en même temps. Qui est-ce qui paye cela ?
Je vous raconte une histoire toute simple. Ouais, puis je vous laisse la parole après.
Si
par hasard, on est capable de choisir ensemble un projet et de regarder quelles compétences moi j'ai et quelles compétences Fred il a, peut-être que dans ce projet-là, on peut apporter nos compétences, comme les castors, les fameuses associations qui construisaient leurs maisons tout seuls et ensemble. Celui qui était plutôt charpentier, il faisait plutôt la charpente. Celui qui était plutôt maçon, il faisait plutôt la maçonnerie. Et puis, toutes les maisons, elles avaient de la maçonnerie et des charpentes, parce que tout le monde s'y collait un petit peu. Donc, c'est ces énergies-là qui ont du sens dans la gestion de nos territoires demain et qui pourraient nous mettre dans une autre logique que la logique économique de « il faut tout acheter à quelqu'un ».
Fred ?
Derrière ça, oui, on va dépasser les schémas classiques et c'est ce qui est difficile parce que quand tu parlais tout à l'heure de la volonté politique, mais en fin de compte, la volonté politique, c'est très difficile de sortir des schémas puisque sortir des schémas, c'est avoir un vrai courage et ce vrai courage, on sait qu'on va sans doute nous le reprocher à court terme puisque c'est souvent des choses qui vont se faire sur le long terme. Et la problématique de toutes ces... des écoquartiers, tout ça, c'est qu'il faut une volonté et cette volonté, elle va pas être... Enfin, les résultats ne vont pas être dans un an, deux ans, trois ans, ça va être dans 10, 20 ans. Par exemple, au niveau des coûts, c'est vrai que le coût de fabrication d'une maison, entre guillemets, BBC, alors je ne sais pas les normes exactement, ça va être entre 10, 15% en plus d'une maison classique. Moi, je connais des gens, des amis qui souhaitaient réellement construire des maisons BBC qui ont été à un moment freinées par le prix. Et derrière ça, l'économie, elle se fait sur l'utilisation de la maison. Parce qu'on construit une maison, c'est pas pour un an, deux ans, on va la rembourser sur 10, 15, 20 ans et on va y vivre pendant 30 ans. Et ce n'est pas nous qui vivons dedans, c'est les gens derrière nous. Et si ces gens-là, derrière, ils payent moins d'électricité, c'est intéressant pour tout le monde. La problématique du chauffage, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours épaté. On parle de pays du Nord, mm-hmm. qui sont en énergie positive. Et nous, en France, on chauffe tous les immeubles, tous les HLM sont chauffés avec des radiateurs électriques. C'est une perte de chaleur constante. C'est les gens qui payent une facture très élevée à la fin. La seule différence, c'est que les gens qui payent la construction ne payent pas le chauffage. Et ce qui fait que les gens, en fin de compte, ils se dégagent. Et à un moment, cette volonté-là, il va falloir qu'elle change. C'est-à-dire que les gens qui construisent, je suis animateur radio, il va falloir seulement que cette question-là se pose de manière réelle pour chacun. Et ça va venir par des contraintes qui vont être extérieures. Mais cette question-là, elle est essentielle. Je construis pour qui et pour payer quoi derrière ? Si je paye plus cher aujourd'hui, si derrière, sur 20, 30, parce qu'il y a un coût d'utilisation, et ce coût d'utilisation, il devrait rentrer à plein dans la réflexion sur la construction. Et c'est vrai que ce sont des choix qui ne sont pas faciles.
Michel ?
Oui, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle chez les professionnels de la profession, comme dit Godard, c'est le coût global. Et c'est vrai que cette solidarité autour du coût global, aujourd'hui, on ne sait pas, dans notre société, la fabriquer sur les questions de commerce, de ville, de construction. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça génère, en effet, ces handicaps dans la prise en compte de moins consommer, être plus rigoureux, etc., puisque la chaîne d'acteurs, elle n'est pas construite.
Eh bien, messieurs, merci pour votre talent d'expertise sur le sujet. Jérôme, Fred, avez-vous une petite conclusion?
Moi, simplement, merci à Michel pour ses propos.
Déjà, premièrement.
Moi, au-delà du débat sur les écoquartiers, enfin, on l'a amené sur la table ici parce qu'il y avait des sujets au niveau de la ville d'Évreux. Je pense qu'il faut surtout réfléchir à l'écocité, c'est-à-dire à ne pas simplement s'intéresser à des quartiers, mais s'intéresser à une ville. La ville d'Évreux est une ville de 60 000 habitants, elle n'est pas très grande. Et le seul moyen pour moi de faire évoluer les choses, il y a un gros travail sur le bâti existant à faire, l'isolation. Il y a un gros travail à faire sur les transports. Et pour moi, une ville doit se concevoir de manière globale avec des installations qui ne sont pas réparties. On ne va pas faire 5 piscines dans 5 quartiers. On va faire une piscine dans un quartier qui sera très bien et en donnant les moyens aux gens des autres quartiers d'y accéder. C'est pareil pour tous les biens de consommation, puisqu'on est bien tous en ville pour consommer. Et je pense que, voilà, moi, mon terme, ça sera plutôt éco-cité qu'éco-quartier.
Ok, on a compris, Fred. Allez, merci beaucoup. Merci, chers merci. Auditeurs, auditrices. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau sujet, sûrement sur les OGM. Tout de suite après nous, Jazz à part, suivi de l'Octroi Acoustic Club, toujours sur Principe Actif. Au revoir, ciao, ciao.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif.